L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hello, 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 bienvenue à tous et toutes. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Ça fait du mal dans l'oreille, non?
Ouais, c'est que ton casque est trop fort.
Ouais, mais c'est parce qu'il marche pas bien, comme la semaine dernière, j'ai un petit souci avec les casques, je dois avoir une onde négative. Donc on arrête de dire des bêtises sur les ondes.
Oui, parce que les quatre, ils sont pas hertiens, ils sont à fil.
Donc ils vont nous croire que vraiment il y a des ondes et tout ça. Donc je m'entends
si,
pas.
Si, des fois il y a des ondes parce que t'as...
Oui, mais bon.
C'est pas là.
Non, pas celle-ci. Donc vous êtes à l'écoute de Radio Canu, j'allais dire, au cas où vous seriez trompé avec le petit bouton qui parcourt la bande FM. Ou si vous êtes en train de chercher je ne sais quoi comme autre radio, bah restez avec nous pour cette heure d'information, d'actualité, de potin. Non, on fait pas des potins.
Ouais, on peut faire potin.
Je suis donc accompagnée de Laurent.
Bonsoir, bonsoir Delphine.
Merci, bonsoir. Nous allons parler de plein de choses. Alors bon, j'ai mal déchiré le petit papier sur lequel il y a
on
le...
On commence par Israël-Palestine.
Mais c'est, voilà. Ensuite, nous allons parler de fascisme, parce que c'est la gangrène. On l'élimine ou on en crève. Nous allons parler de coronavirus. Vous allez me dire, ouais, mais tout le monde, il en parle et tout. Ouais, mais on va faire un petit truc synthétique. Vous allez voir sur...
Synthétique.
Alors non, en fait, ça va pas être synthétique. Ça va être ramassé parce que je vais parler plein de choses. Mais c'est beau quand même, comme un virus peut amener quand même beaucoup de bêtises. Hein. Nous irons du côté de l'économie que tu as décidé de mélanger à ni Dieu ni maître.
Ouais, ouais, c'est à peu près ça, ouais.
On parlera un peu d'Airbus, très rapidement. On parlera de mobilisation et de comptage, hein, puisqu'on pourra parler de mobilisation tout court, hein, puisqu'il y a encore des actions.
Aujourd'hui et demain et après.
Et hier, tout ça.
Ouais.
Et puis nous aurons notre rubrique traditionnelle qui va clore cette émission sur l'énergie et ou l'environnement. En tout cas, on va parler de l'éolien, en l'occurrence.
Et de la Californie, peut-être, voilà. Si on a le temps.
Alors, donc, je te laisse donc démarrer cette émission.
Oui, alors, c'est la suite un peu de l'actualité de la semaine dernière au Proche-Orient, en Israël et en Palestine, puisque suite à, on va refaire le, voilà, les conséquences suite à l'annonce de ce plan de paix. Le mot fait rire hein, quand on lit ce qu'il y a écrit dedans. Le plan de paix de la part de Monsieur Trump. Donc il y a eu pas mal de réactions. On va faire un peu le celle qui date d'hier et d'avant-hier, de réactions ou de conséquences, puisque dans cette nuit, dans le centre de Jérusalem, une voiture a foncé dans la foule, faisant 14 blessés. Ça s'est passé à First Station, un des quartiers un peu animés de la vie nocturne de Jérusalem-Ouest. C'est pas la ville la plus animée, c'est moins animé bien évidemment que Tel Aviv, hein, puisque c'est une ville tellement religieuse que les religieux sont tellement tristes que c'est pas très festif comme ville. Mais il y a quand même quelques petits coins où il se passe un peu des choses. Donc là c'est le coin au bar et au restaurant, enfin un des coins. Donc voilà, les flics et les services de secours sont arrivés. Tout le monde a qualifié ça d'acte de terrorisme, bien évidemment, de la part de l'État israélien. Ils ont retrouvé le véhicule entre Jérusalem et Bethléem, abandonné, bien évidemment. Ils ne savent pas qui était dedans. Ce qu'on notera, c'est que la qualification est forcément un acte de terrorisme. Mais en fait, il y a une petite subtilité. Un acte de terrorisme, c'est pour faire peur aux populations avec ou agresser les populations. Or, en fait... Les 14 blessés, c'est pas des civils, c'est des militaires. Quand on attaque des militaires, quand on est un pays occupé, qu'on attaque des militaires, comment on le qualifie. Alors on se rappelle, pour nous, la période la plus récente où on a eu ce genre d'ambiguïté, c'était pendant la guerre de 39-40, pendant l'occupation allemande, quand les résistants faisaient sauter des ponts ou des trains ou je ne sais quoi, ils attaquaient des militaires, des Allemands ou de la Gestapo et tout ça. L'occupant qualifiait ça d'acte de terrorisme. Par contre, du point de vue de l'histoire aujourd'hui et des résistants, c'était un acte de résistance, un acte de guerre, puisque le pays était occupé. Voilà. Et on est quand même dans cette situation, puisque là, la personne n'a pas attaqué des civils qui étaient en train de boire des coups dans un bar. Il a volontairement attaqué des militaires qui occupent sa ville, qui occupent son pays. Donc, de qualifier d'acte de terrorisme, c'est une qualification toujours ambiguë quand quelqu'un qui est occupé, c'est-à-dire qui est occupé, c'est du point de vue du droit international, Jérusalem est occupée et la Palestine, la Cisjordanie est occupée. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ces petits mots de qualification rapide d'acte de terrorisme. C'est un acte violent, en tout cas, une agression contre des soldats.
Après, moi je mettrai un petit bémol quand même. On rappellera que la société israélienne est une société militaire, puisque hommes et femmes doivent faire, à part quelques exceptions religieuses, mais leur service. Donc c'est assez facile en fait de toucher des militaires, puisque très vite il y en a...
Non mais des militaires en
tenue, bah écoute... Oui. Excuse-moi, mais très très rapidement, on trouve des militaires en tenue un peu de partout en Israël qui sont sur un moment d'exercice aussi, sur un moment de pause. C'est un pays militarisé qui est en guerre.
C'est normal, ils occupent un autre pays, notamment à Jérusalem, en Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain, ils occupent. Donc effectivement, quand on occupe un pays, il faut qu'il y ait une armée d'occupation, sinon ça ne fonctionne pas.
Je suis d'accord avec toi. Après, je mettrai aussi un autre petit bémol, c'est qu'il y a des endroits très festifs à Jérusalem, qui est une ville très sectorisée dans des quartiers. Vous avez des quartiers avec des religieux intégristes.
De tous bords.
Et je vais me dire toutes les religions.
Ouais, les chrétiens intégristes, c'est moins courant.
C'est une ville multiculturelle et multireligieuse. Il y a moins de. Alors, excuse-moi, mais bon, je pense que.
Ouais, il y en a qui.
Vous êtes embêté une fois avec Jésus, je pense que quand même, il y a un peu de l'intégrisme derrière. Mais c'est vrai aussi que c'est une ville qui s'est transformée sur une partie israélienne, puisqu'il y a eu une immigration de jeunes, américains qui ont rénové des quartiers, qui s'y sont installés. Alors, j'imagine qu'on pourrait ici très facilement les traiter de bobos, même si c'est un terme moi qui m'exaspère un petit peu, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont immigré, qui se sont installés à Jérusalem. C'est pas une ville vilaine, hein, c'est une ville intéressante. Et donc ça amène aussi un nouveau dynamisme de gens qui n'ont pas la pratique rigoriste que d'autres pouvaient avoir jusqu'à présent. Et puis il y a aussi évidemment toute une population qui est chrétienne et qui ouvre des bars et qui n'est pas gênée du coup par des obligations religieuses, que ça soit du côté des musulmans ou des juifs, avec par exemple le Shabbat et le respect de certaines pratiques. Les chrétiens vont ouvrir des bars et donc il y a quand même une vie, moi je trouve aussi, qui existe à Jérusalem, et c'est une ville qui évolue beaucoup ces dernières années, pas forcément dans le bon sens, hein, soit parce qu'il y a des riches qui viennent s'y installer, soit parce qu'il y a plus de colonies, voilà, mais c'est une ville où il peut aussi se passer un petit peu des choses quand même.
Ouais, mais c'est
pas une
même,
ville triste.
C'est pas la vie nocturne de Tel Aviv.
Ah mais non, mais Tel Aviv est une ville aussi qui a une forte activité festive. Ça, c'est, il faut le dire.
Voilà, alors on notera que du côté palestinien, le bilan est largement pire, puisque pour l'instant, c'était arrivé hier, un Palestinien a été assassiné par un militaire israélien. Alors ça s'est passé à Hébron. Donc c'est la ville la pire, je pense, qui existe sur la planète aujourd'hui en tant que ville occupée, qui n'est pas en guerre réellement, mais qui est juste occupée, où voilà, les Palestiniens sont rabaissés en permanence, l'armée d'occupation, tout ça parce qu'il y a un truc soi-disant, enfin pas soi-disant, mais qui est considéré comme important au niveau de la religion juive, et qui a une installation d'une colonie de quelques centaines de juifs qui sont protégés par des milliers de soldats israéliens, et qu'au milieu de tout ça, il y a les Palestiniens qui habitent là, qui vivent là et qui morflent vraiment.
C'est dire qu'il y a beaucoup de checkpoints, c'est-à-dire
il y a des checkpoints.
Ta vie est gérée par les
tous les deux, voilà, tous les deux pâtés de maison, il y a un checkpoint. On te met en joue systématiquement. Il y a une humiliation permanente. Du coup, il y a voilà. Et quand un président américain propose un plan de paix dicté par l'extrême droite américaine alliée au gouvernement d'extrême droite israélien. Forcément, ça énerve tout le monde et le jeune palestinien a priori était énervé et les soldats, voilà, il a agressé les soldats et les soldats l'ont tué, quoi. Ça s'est fait comme ça, a priori, d'après les infos qu'on a. Donc, mais il y a eu plein d'autres blessés, hein, puisque il y a des manifestations, il y a eu des réactions en Cisjordanie. Alors à Gaza aussi, il y a eu des manifestations, mais l'armée israélienne ne rentre pas systématiquement dans Gaza. Il y a pour les manifs, il y a aussi bon après les attaques, les petites choses que font le Hamas ou le djihad islamique. On notera aussi que aujourd'hui, alors ça serait arrivé à Jénine, donc dans une partie de la Cisjordanie occupée légalement par l'armée israélienne. Deux Palestiniens auraient été tués. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé. C'est l'agence officielle palestinienne Wafa qui a donné l'info. A priori, il y a au moins un des jeunes, puisqu'il avait 19 ans, qui a été tué par un soldat, par un Israélien. Hein. Alors qu'ils sont à Jénine, donc voilà, en terre palestinienne, dirons-nous. Voilà. Alors il y a d'autres actions plus pacifistes, même si c'est pas plus efficace finalement le pacifisme que les actes agressifs, puisque hein, on se rappelle, il n'y a pas beaucoup d'agressions pour un pays occupé. Je pense que si on compare à l'occupation allemande sur le territoire de la France, je pense qu'il y avait plus d'actes de résistance qu'il y a aujourd'hui.
On peut dire effectivement ces dernières années.
D'actes, mais ça s'est beaucoup calmé, ce que je veux dire depuis la deuxième intifada. Ouais. Donc il y a des manifestations aussi pacifistes. Là, c'est 500 élèves de pas mal d'écoles qui relèvent de l'agence de l'ONU, l'UNRWA, l'agence de soutien aux réfugiés palestiniens, qui ont manifesté à Saïda, on n'est pas en Palestine, on est au sud du Liban, contre ce plan de paix horrible du président Trump. Voilà, ça veut dire que aussi au Liban, où il y a des camps de Palestiniens qui sont dans des situations sociales et économiques extrêmement dégradées, dirons-nous. Voilà, ça a manifesté, ils dépendent que de l'UNRWA, hein, ils vivent de l'aide internationale depuis 1948, date où ils ont été expulsés de leur pays. Voilà. Alors, bien évidemment, l'Iran rajoute une couche. Ali Khamenei, le guide suprême, là, vous savez, le fou furieux, là, le fou de Dieu complètement dingue. Donc, lui, il a dit qu'il allait financer des mouvements de résistance. Alors, là, on sait très bien ce qu'il entend, lui, par résistance. Là, on est dans le pur terrorisme, hein, même si quelquefois, ça ressemble à de la résistance. D'autres fois, pas du tout. Puisqu'ils sont vraiment racistes, hein, il faut quand même le dire aussi. Donc, on sait qu'il finance le Hamas, qui financent aussi le djihad islamique. Donc ils vont continuer de financer, ils financent le Hezbollah, le Hezbollah qui a eu un rôle énorme pour libérer le sud du Liban. Donc pour le coup, ils ont financé le Hezbollah, qui était un parti de résistance à l'occupation, qui fait aussi des actes terroristes en parallèle, hein, mais voilà. Donc là, c'est mettre de l'huile sur le feu, mais on n'en attendait pas moins de l'Iran, hein. De toute façon, ils n'ont jamais été porteurs de solutions de paix, l'Iran. Voilà. Alors maintenant, on va se dire, en interne, en Israël, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des réactions contre ce truc-là? Alors, il y a eu des manifestations, et je vais lire deux extraits de communiqués de gens d'Israéliens, d'assauts israéliennes, qui sont contre ce que fait le gouvernement israélien, pour montrer qu'il n'y a pas que les Palestiniens, même si c'est eux qui souffrent, et c'est eux qui morflent, qui se mobilisent et qui sont contre. Alors, je vais juste dire un petit mot sur Betselem. Donc, c'est une asso israélienne qui s'occupe des droits humains dans les territoires occupés, par leur pays, enfin par Israël. Une association vraiment intéressante, hein, c'est eux qui donnent beaucoup d'infos. Donc ils ont fait un communiqué officiel en disant, je vais citer quelques phrases, voilà, ça va être très bref, mais ils disent, le plan d'administration américaine baptisé, alors en anglais c'est Deal of the Century, l'affaire du siècle, ou le truc comme ça là, ressemble plus à un fromage suisse, le fromage étant offert aux Israéliens, les trous aux Palestiniens. Bon, c'est une image que beaucoup de gens ont repris. Il existe de nombreuses façons de mettre fin à l'occupation, mais les seules options légitimes sont celles fondées sur l'égalité et les droits de l'homme pour tous. C'est pourquoi le plan actuel qui légitime, renforce et étend même la portée des violations des droits de l'homme perpétrées par Israël depuis 52 ans est tout à fait inacceptable. Ce plan révèle une vision du monde qui voit les Palestiniens comme des sujets pérennes plutôt que comme des êtres humains libres et autonomes. Voilà, c'est quelques petits extraits de cet assaut israélienne qui s'oppose donc à la politique que mène Israël. J'ai aussi récupéré quelques phrases un peu plus de Peace Now. Alors Peace Now, c'est une association aussi qui a été formée par d'anciens militaires, qui est pour le coup une association de sionistes. On dit toujours que voilà, on se positionne plutôt du côté de l'antisionisme, etc. Mais on peut être sioniste et pour vivre avec les autres. Et Peace Now, c'est un peu leur position. C'est oui, on est là-bas, on veut rester là-bas. Ils s'estiment dans le droit, mais on veut vivre avec les autres et en bonne entente avec les autres. Et ils ont souvent ils sont plutôt force de proposition. Ils sont pas plus écoutés que les autres, hein, en Israël. Mais voilà, c'est le camp, dirons, le moins à gauche dans le camp de la paix. Mais c'est beaucoup plus à gauche que tout ce qui existe aujourd'hui au pouvoir en Israël, malgré tout. Du coup, ça a tellement basculé à droite en Israël que, voilà. Alors ils disent, lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, a présenté festivement son deal du siècle, il a répété plusieurs fois les mots suivants, plan de paix et état palestinien. Malgré les mots apparemment appropriés et l'atmosphère festive, un examen des détails du plan révèle clairement à quel point il manque à la fois la paix et à la fois l'état palestinien. Une évaluation plus approfondie indique que le plan néglige non seulement de faire avancer la paix, mais a également le potentiel de nuire gravement aux perspectives d'un véritable plan de paix pour les deux parties et la véritable création d'un État palestinien. Alors ils expliquent pourquoi après, par exemple, selon le plan américain, Israël peut annexer les colonies dès maintenant, d'ailleurs sans négociation. L'État palestinien n'existe pas vraiment, il n'y a pas de continuité territoriale, ils sont obligés de créer des tunnels pour que ça marche. Alors eux aussi ils reprennent l'image du fromage suisse, du gruyère qui est connu dans le monde entier du coup. Voilà. Il manque des frontières indépendantes puisque avec ce que fait ce que propose Trump, il y a plus de frontières avec d'autres pays qu'avec Israël, puisque même la frontière avec l'Égypte qui reste la seule qui existe, elle est contrôlée par Israël, puisqu'ils perdent la frontière avec la Jordanie, hein, puisqu'ils perdent le Jourdain qui sera occupé entièrement normalement par Israël. Voilà, donc bon, je vais pas tout lire, mais voilà, il explique que le plan proposé par Trump n'a aucun sens. Et ils vont plus loin, ils disent que c'est une proposition raciste. Et c'est intéressant jusqu'où ils vont, puisqu'ils disent, mais attendez, dans le plan de paix, il y a aussi qu'ils vont virer des citoyens israéliens arabes, et eux, ils sont contre. Eux, ils disent, c'est déjà un pays qui est super majoritairement juif, Israël, à 80%. L'objectif de l'extrême droite, c'est de faire un pays 100% israélien, 100% juif, en fait, 100% juif plutôt. Et eux, ils s'y opposent, ils disent, non, nous, on veut vivre en bonne entente entre citoyens juifs et arabes. Donc ils vont quand même pas mal loin, Pisna, et voilà, ils dénoncent. Donc c'était pour rappeler que voilà, il y avait aussi, il y en a d'autres, hein, je suis pas allé voir les refusniks, je suis pas allé voir les anarchistes contre le mur, enfin voilà, il y a beaucoup de groupes. J'ai fait plutôt des groupes connus et pas trop d'extrême gauche pour montrer que le plan de paix il est rejeté par tout le monde. Et puis pour terminer, ce qui est en train de se passer au niveau de l'ONU, Trump il va essayer de présenter un plan de paix à l'ONU. Donc au Conseil de sécurité, il y a 15 membres, les 14 jusqu'à maintenant étaient contre, puisque les 14 disent qu'il faut respecter le droit international et les résolutions adoptées. Comment il s'y prend? En fait, il essaye de faire de mettre la pression et de faire du lobbying. Il a envoyé Jared Kushner, qui est son gendre, le mari de sa fille, et il a invité donc les 14 autres membres dans le bâtiment de la délégation des États-Unis pour leur discuter, tout ça, grosso modo pour mettre la pression. C'est mardi prochain que normalement qu'il y a un vote, qu'il veut présenter une résolution et qu'il y aura un vote, et mettre la pression. Il faut savoir que Mahmoud Abbas, donc le chef de l'autorité palestinienne, est attendu donc dans 5 jours, enfin, mardi prochain, donc à l'ONU. Et voilà, il va présenter, demander qu'il y ait une nouvelle résolution qui va être votée. On sait ce qui va se passer, hein, c'est couru d'avance. Normalement, les 14 vont voter pour la résolution. Les États-Unis vont voter contre, et comme ils ont un droit de veto, hein, puisqu'il y a aucune égalité au niveau de l'ONU, hein, c'est pas un système égalitaire du tout, ni démocratique, encore moins. Les États-Unis vont bloquer la résolution. Ce qui va être intéressant de voir mardi, c'est si les 14 votent pour la résolution. Si les États-Unis, avec leur pression, arrivent à faire plier des États faibles. Et on a des idées, hein, qui traînent, parce que là, Emmanuel Macron a été super sympa avec le plan de paix pourri de Donald Trump. La France a déjà plié plusieurs fois sur les GAFA. Le gouvernement français et son président ont plié. Et là, le risque, c'est que là aussi, ça plie. Ce qui montrerait la faiblesse de ce président fantasque et horrible et autoritaire qu'on a, qui est autoritaire ici, mais qui a pas le poil de courage de s'opposer aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était les conséquences et les suites de cet horrible plan de soi-disant de paix.
Oui, enfin après, moi je rajoute aussi que le problème des Palestiniens et des Palestiniennes, c'est pas simplement les colonies, c'est pas simplement Trump, c'est que ce soit sur la bande de Gaza ou sur la Cisjordanie, malheureusement, comme un peu partout dans le monde, les Palestiniens, les Palestiniennes ont des dirigeants et des élus qui sont débiles, voire corrompus, et qui n'aident pas forcément non plus à avancer sur place et dans un rapport diplomatique. On a quand même certains qui sont très religieux, qui amènent un intégrisme, d'autres qui sont quand même accusés de corruption.
Ouais.
Profonde vérité.
L'autorité palestinienne est pas mal gangrenée.
Et donc,
mais
il
y a que ça qui tient, quoi.
Et oui. C'est aussi un problème parce que le fait, c'est une société palestinienne qui est en train de se construire, qui se déconstruit à chaque fois qu'il y a un problème et qui reste un peu à la marge parce que finalement, effectivement, elle est dans une t'existes pas quand t'es palestinien ou palestinienne, hein, dans le monde.
Ah ben, oui, de toute façon, t'existes pas. Hein.
Voilà, donc, tu n'existes pas.
Apatride.
Mais de fait, en plus de ça, on peut pas dire qu'il y ait des dirigeants qui aide et qui favorise aussi un autre développement et un autre une autre construction collective, diplomatique, économique, et donc là tout ça pèse. Mais et c'est aussi un vrai problème. Hein,
on rappelle que dans les tentatives de réorganiser des élections ont été vouées à l'échec à cause d'Israël en grande partie parce que effectivement les dernières élections datent maintenant de très longtemps. Ceux qui ont gagné, le Hamas dans la bande de Gaza, ils n'ont jamais été reconnus par personne. Ça aussi, c'est l'hypocrisie des gens en face. Il y a un système démocratique, même si c'est le parti horrible d'extrême droite religieuse qui gagne, bah tant pis, il gagne, quoi. Et effectivement, l'autorité palestinienne, notamment Mahmoud Abbas, il a jamais été élu, hein, il est là comme ça en héritier, effectivement, mais d'ailleurs il est souvent remis en cause, mais c'est le seul qui officiellement dialogue avec les autorités internationales, puisque voilà, le reste est un peu écroulé aussi, notamment la vie citoyenne qui existe mais qui a été gangrenée quand même par la religion. C'est pour ceux qui sont allés en Palestine il y a 20 ans ou il y a 30 ans et puis qui vont tous les 10 ans et ils voient une évolution, une dégradation aussi de la vie citoyenne parce que les vrais démocrates, les groupes de femmes, tout ça ont abandonné et puis c'est le religieux qui a pris la place.
Voilà.
Bon bref, on va parler. Ah oh, bah c'est
ouais.
Ah bah ouais, c'est un truc. Hein? Hey, c'est la classe. Moi je tout le long, ça fait.
Je te sens moquin.
Ouais, non mais attends, ça fait bouger les choses. Parce qu'il y a des trucs qui. Alors c'est un truc qui arriverait pas en France. C'est plus compliqué, mais qui arrive en Allemagne. Donc au Parlement d'Erfurt. C'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Les chrétiens démocrates, donc c'est la CDU, les libéraux, le FDP. Le FDP, c'est un tout petit parti. Hein. Se sont alliés le 5 février pour suite à l'élection dans le Länder, dans ce Land, pour gagner, enfin pour monter une coalition. Le problème, c'est qu'à deux, le FDP, ils sont pas nombreux, donc ils ont pas beaucoup d'élus. Et la CDU, avec eux, ils étaient pas majoritaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc la CDU, c'est le parti d'Angela Merkel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont alliés avec l'extrême droite pour monter une coalition. Alors, donc c'est arrivé hier. Donc forcément, le scandale total en Allemagne. Hein, une alliance. Nous, on a, j'allais dire nous, en France, il y a déjà eu des alliances, les Républicains avec l'extrême droite. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais quelquefois ça s'est passé. Là, c'est inacceptable, a priori, en Allemagne, et ça fait plutôt plaisir. Et tous les titres, que ce soit les journaux de gauche ou les journaux de droite, ont titré ce matin au scandale. Ça va du titre du journal de gauche élu par les fascistes à voilà un rejet global de la main tendue à l'extrême droite à travers ce qui s'est passé. Et notamment à travers le leader régional de l'AFD, Björn Höcke, qui est aussi le chef de Flügel, qui est l'aile la plus radicale du parti d'extrême droite. Ils sont carrément nazis, quoi, les gars, quoi. Et c'est ce mec-là qui a négocié, quoi. Donc voilà, il y a une arrivée de l'extrême droite qui est forte hein, dans certains landes, et notamment à l'Est. Et là, cette alliance, alors elle avait un but, cette alliance, parce qu'en face d'eux, la coalition qui allait gagner, s'il n'y avait pas l'alliance avec l'extrême droite, c'était celle qui était déjà au pouvoir dans ce land, c'était l'alliance de Linke, le parti de gauche, les sociaux-démocrates du SPD, l'équivalent du PS un peu chez nous, et les écolos. Et ça, ils en voulaient pas, donc ils sont prêts à s'allier avec l'extrême droite pour lutter contre cette coalition de gauche qui allait être plus forte qu'eux. Alors tout le monde a réagi, donc celui qui a été élu, c'est parce que c'est un libéral, donc c'est le parti FDP, tout petit parti qui se retrouve chef du parlement d'Erfurt, Thomas Kemmerich, il a essayé de résister hier, en disant non, moi je bougerai pas, j'ai mis sur un appareil. Alors, il a commencé à annoncer qu'il allait demander à ce que le Parlement soit dissous et ça entraînerait une élection. Et puis tout le monde lui a mis la pression, il a eu l'air vraiment compte de collaborer avec l'extrême droite. Et finalement, dans l'après-midi, il a jeté l'éponge, il a dit je démissionne. Donc voilà, Angela Merkel était montée au créneau, ça a beau être son parti, elle n'a pas du tout apprécié cette alliance avec l'extrême droite. Donc voilà, il y a une belle mobilisation politique de tout le monde, avec des enjeux de politique politicienne, bien évidemment, hein, c'est de la démocratie représentative, mais il y a quand même une mobilisation qui montre que tout n'est pas désespéré malgré cette montée de l'extrême droite en Allemagne. Donc voilà, alors il faut savoir aussi, se rappeler, et eux ils s'en rappellent plus que nous, j'imagine, c'est que Hitler il est arrivé au pouvoir par les élections et par des alliances avec des partis traditionnels notamment de droite. Et donc ça fait peur, et donc heureusement, pour l'instant, ça protège encore de l'arrivée au pouvoir. Ils sont déjà en partie, mais pas autant dans une coalition à diriger un parlement local d'un Länder. Donc voilà, c'était ça mon sujet, le fascisme, tout ça, sur l'Allemagne. C'était pas très drôle.
Antivirus ?
Ouais,
alors, le coronavirus, je vais y arriver, j'en bafouille, a amené évidemment une médiatisation.
Celui qui vient de Chine, le nom va sortir d'ici quelques jours.
Voilà, une médiatisation extrêmement importante qui a été beaucoup critiquée par les internautes, par les auditeurs et les auditrices, par les téléspectateurs et téléspectatrices qui trouvaient que quand même on faisait trop parce que, bon, chez nous, mince, les gens ils meurent de la grippe. Voilà. Un peu l'idée que finalement, mince, c'est en Chine, on a un peu rien à péter. Ce qu'il faut, c'est toujours analyser, comparer les deux virus, c'est complètement stupide, enfin je trouve, et je suis pas la seule à le penser. Ce qu'il faut, c'est regarder l'indice de contagiosité, regarder évidemment la mortalité, regarder tout un tas de critères pour savoir si effectivement ce virus, il faut le craindre ou pas. Alors par rapport à Ebola, je vous dis tout de suite, l'indice, il est très bas.
Oh oui, non mais Ebola,
il est très bas, non.
C'est un peu un haut niveau quand même.
C'est pas très scientifique, mais Ebola...
Ebola est particulièrement agressif.
Tout à fait. Et bien c'est surtout que la contagion est très rapide,
très forte, ouais.
Très forte. Et puis
forte mentalité.
Il y a une forte mentalité. Donc toujours est-il qu'effectivement on a eu des médias qui se sont emballés et on a vécu ces derniers jours plusieurs phénomènes. D'abord évidemment un phénomène lié au racisme que subissent un certain nombre de personnes dans notre pays, mais pas seulement chez nous. Hein. Ça peut être partout en Europe, aux États-Unis.
Et c'est partout dans le monde en fait. Sauf en Asie, forcément.
Alors donc on a eu des témoignages hein, de gens qui expliquent dans le métro
d'origine asiatique, vous êtes porteur d'un virus.
Voilà, donc voilà. Les gens ne voudraient plus s'asseoir à côté. Et puis il y a cette espèce d'idée aussi dans la tête a priori des racistes que quelqu'un qui est d'origine asiatique a forcément encore un accent. Hein, comme dans les pires films qu'on peut entendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont en France depuis sacré paquet de générations.
Il y en a même qui sont nés en France, puisqu'ils sont des fils d'eux, des petits-fils d'eux.
Tout voilà. À fait récentes, des expatriés. On va parler comme des gens.
Il y a aussi ça.
Qui parlent des Français à l'étranger, dont des expatriés qui viennent s'installer en France. Voilà. Donc il y a un racisme très fort, ce qui fait qu'il y a un hashtag qui est apparu sur les réseaux commerciaux qui s'appelle « Je ne suis pas un virus ».
Ouais, c'est pas mal. On est obligé de dire ça aujourd'hui dans le monde moderne.
Donc, c'est vrai que c'est un racisme particulier dont on ne parle pas beaucoup en France. On a eu ces derniers mois des organisations, des groupes de personnes qui sont montées au créneau, des élus, pour dire il y a un racisme sur les personnes d'origine asiatique dont on ne parle jamais.
Ouais.
Et on le subit, on le vit. Parce que tout le monde n'a pas la même réaction. Il y en a des gens qui militent, donc ils le vivent plutôt qu'ils le subissent. Qui est constant Et il y a aujourd'hui des gens qui s'inventent d'autres vies pour éviter évidemment de trop devoir se mettre en avant. Il y a les enfants qui ramassent. Et c'est un racisme qui n'est pas rendu visible dans les médias. Il a fallu attendre finalement un peu ces dernières années pour qu'il y ait de la critique et qu'enfin on commence à se dire « Ah si, si, tous ceux qui ne sont pas blancs, toutes celles qui ne sont pas blanches, vive le racisme en France, soyons très très clairs. »
En fait, en général, les gens qui sont racistes, on raciste un peu avec tout le monde. tu sais. Enfin,
mais ça veut dire qu'en France,
l'image que tu renvoies, la personne que tu vois en face de toi, si elle renvoie pas la même image que toi, ben tu l'aimes pas. C'est un peu ça le principe du raciste.
Alors, on a évidemment. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Je vais quand même en causer deux secondes. C'est toujours merveilleux, la presse, surtout quand elle est régionale. On a donc ce courrier Picard qui nous a fait un éditorial et un titre absolument magnifique. Alors, le titre, c'était Alerte jaune, et l'éditorial parlait de péril jaune.
Alors, mais péril jaune, on a l'impression d'être dans les années 60, avec
colonisation française a utilisé ce terme,
mais c'est
un terme surtout qui est repris dans le monde entier, encore une fois. À la base, hein, c'est-à-dire que c'est pas une invention forcément de chez nous, c'est le péril jaune a... c'est un racisme et c'est une haine qui est assez mondiale, quand même.
Alors que quand on parlait de péril rouge... C'était pas les Indiens, c'était la couleur politique, c'était pas du racisme.
Du coup, il y a cette histoire d'alerte jaune. Le courrier Picard a voulu s'excuser de la une du 26 janvier dernier. Je dis a voulu s'excuser parce que, alors, franchement, le truc, je l'ai sous les yeux. Il y a eu d'ailleurs un papier pour les excuses, soi-disant. Il paraît que c'était, alors je l'ai, hein, une graduation du jaune au rouge. Il fallait le prendre au sens colorimétrique.
Ouais, c'est ça. Et la marmotte, tout ça avec le chocolat.
Je pense qu'ils ont dû chercher. En fait, ils voulaient parler comme
la météo. Ils ont cherché une excuse, quoi.
Hein, entre le vert et rouge, sur la dangerosité du virus. Oui, je pense qu'ils ont dû réfléchir longtemps dans le bureau pour savoir exactement comment ils allaient faire passer cette affaire. Les excuses, hein, les plus sincères, oui, le problème c'est que c'est fait. Il fallait peut-être réfléchir deux secondes avant. Alors on sent aussi que il y a quand même des médias comme Le Point qui tentent de faire des jeux de mots qui sont parfois, je trouve, un peu douteux. Le casse-tête chinois des rapatriements d'Africains.
Oui, mais ouais.
Et je pense que dans les bureaux, ils se sont bien marrés aussi. Ah, regarde, ils trouvent un super titre. Donc c'était hier. Hein, sur le point.fr, c'est dur à dire. Vous le trouverez encore, l'article, hein, voilà, il existe. Donc voilà, il y a quand même un peu du laisser-aller quand même dans les médias sur le sujet. Il y a une dramatisation un peu stupide, manque de propos scientifiques quand même, alors que dans certains médias, il y a des journalistes scientifiques qui sont là. Hein. Alors il y en a de moins en moins, vous me direz, mais c'est dommage de ne pas faire appel à ces gens qui... quand même pourrait relever un peu le niveau et puis éviter ce genre de péril jaune, d'alerte jaune et puis même de casse-tête chinois, je pense qu'on peut s'en passer. Alors, à côté de tous ces propos racistes hein, qui se retrouvent, vous allez sur les réseaux commerciaux, c'est une catastrophe. Hein.
Ouais.
Vous avez les complots.
Ouais, mais ça c'est inévitable. Aujourd'hui,
avec le virus,
dès que quelque chose arrive, il y a un complot.
Mais là, à chaque fois qu'il y a quand même des maladies et des virus, les complotistes... sortent. Et un peu toujours avec les mêmes histoires. Alors, évidemment, c'est la CIA.
Moi, j'aime bien. C'est digne d'Assolino, ça. C'est la faute à la CIA, quoi qu'il arrive.
L'idée, c'est que je vous rappelle, il y a une guéguerre quand même diplomatique, commerciale, économique, hein, surtout.
N'empêche que moi, je serais à la CIA, j'aurais essayé de faire ça.
Entre la Chine et les États-Unis d'Amérique.
Ça aurait fait un bon film.
Et donc, les gens expliquent, en fait, c'est pour déstabiliser le régime chinois que la CIA a mis un virus.
Ça déstabilise un peu le régime, ceci dit, mais...
La CIA, c'est comme tout le temps. En France aussi, les anti-américanistes...
Ouais, mais je te rappelle qu'ils ont tellement fait de trucs pourris, notamment en Amérique du Sud, maintenant, ils méritent d'avoir un peu que tous ces fake news sur eux, quoi.
Il y a aussi l'idée que... je cherche dans lequel les faire, dans quel sens. Qu'en fait, il y a un vaccin, quelque chose qui existe déjà.
Ouais, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Mais bon.
Alors les gens mélangent, puisqu'en fait, il s'agissait d'un autre vaccin sur un autre coronavirus.
Ouais, mais pas sur celui-là.
Et qu'il
ne
faut pas tout mélanger. Et que oui, effectivement, il y a des choses.
Je rappelle, le coronavirus, ce n'est pas le nom d'un virus, c'est le nom d'une famille de virus.
Voilà. Mais bon, du coup, les gens ont dit ah là là, il y a des gens qui veulent se faire de l'argent dans les multinationales du médicament. Hein. Là aussi, on peut taper sur les multinationales, bien évidemment, il faut le faire, mais encore faut-il taper correctement et quand c'est le moment.
Surtout, sinon, malheureusement, le vaccin est Et pas prêt, il leur faut, il doit leur falloir au moins 18 mois pour
Trouver un vaccin. Dans le même genre, on a les anti-vaccins qui disent qu'en fait, tout ça, c'est pour nous forcer.
Ah oui, bah bien sûr.
À se vacciner. Pour faire de l'argent multinational, bien évidemment.
Ouais.
Donc ça va se répandre chez nous.
Mais d'ailleurs, ces anti-vaccins, ils disent rien. Là, il y a 10 000 morts par la grippe, entre 5 et 10 000. Et pourtant, on ne vaccine pas beaucoup. Du coup, ah, mais non, c'est pour ça. On nous oblige. Peut-être que ces 10 000 morts de la grippe, c'est faux aussi.
Alors, après, les autres théories, c'est évidemment du côté de la Chine, hein, qui est évidemment un pays autoritaire, qui cache un peu des choses.
Un peu beaucoup.
Voilà. Donc, l'idée, ça serait que ça serait pour flinguer à Hong Kong les militants et les militantes.
Ouais,
les Ouïghours.
Mais ils sont bêtes, parce que dans ces cas-là, ils auraient fait partir soit de la région Ouïghour, soit directement de Hong Kong, pas de cette pauvre région.
Le deuxième complot, c'est que ça s'est échappé d'un laboratoire secret.
Sans faire exprès.
Et qu'ils n'ont pas pu contrôler la fuite.
Ils n'ont pas un laboratoire P4. Ils ont un laboratoire qui fuit.
Alors, je vous rappelle, si vous avez lu World War Z, je ne vous parle pas du film parce que le film ne reprend pas cette idée-là, parce qu'il fallait vendre le film en Chine. Et donc, il ne faut pas vexer les autorités chinoises. Donc, on a enlevé cette idée. Mais l'idée, quand même, c'est que le machin s'échappe d'un laboratoire en Chine et que tout le monde après devient un zombie. Hein. Ça, c'est un livre. Il y en a d'autres en ce moment, des choses comme ça qui beaucoup sortent, parce qu'effectivement c'est un pays dont on ne sait pas bien ce qui s'y passe, dont on peut critiquer l'autorité, mais ça reste de la fiction. Voilà. Alors il paraît que d'ailleurs tous les films, tous les jeux et tous les livres qui reprennent les histoires de virus font un tabac, qu'il y a des ventes qui explosent, que les téléchargements explosent sur ces trucs là c'est marrant quand même, comme on reprend un petit peu de l'emballement. Et puis que surtout la Chine ne dit pas la vérité sur la contamination, et qu'elle serait en fait en train d'exploser en grand secret. Il y a des complots qui expliquent qu'en fait il se passe des trucs affreux.
Non, mais c'est difficile.
On enlève.
C'est difficile quand même de penser que la Chine donne toutes les infos.
Ah ben,
on les connaît.
Non, mais il y a de la propagande derrière.
Donc,
la vérité, c'est qu'effectivement, les autorités chinoises sont en train de mettre un masque aux médias, mais comme sur tous les autres sujets. C'est-à-dire que c'était quand il y a eu
sur les Ouïghours.
Affrontements à Hong Kong, sur les Ouïghours qui ramassent, sur les camps dans lesquels on enferme les Ouïghours. Tout ça, évidemment,
ce n'est pas raconté
par les médias chinois, bien évidemment, qui sont tenus d'une main de maître par Xi Jinping, par exemple.
Alors, et le Parti communiste.
Ouais, Xi Jinping, je crois qu'il tient bien le Parti communiste. Il tient tout seul quand même la Chine. Donc oui, effectivement, il se passe des choses. Effectivement, il y a une pression très très forte. L'histoire du grand hôpital là, qu'ils ont construit, c'est aussi de la propagande. C'est montrer aussi une force, capacité de la Chine à construire un truc que même les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à construire aussi vite. Mais derrière, on se doute bien qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi, qu'il y a des situations. Et en même temps, il y a une obligation aussi, c'est qu'ils... faut mettre ces malades quelque part, et qu'en même temps, la vérité derrière, c'est qu'il n'y a pas de médecin.
Du coup, j'ai vu une blague qui tournait, qui m'a juste trouvé ça drôle, c'est que Orano proposait d'embaucher la Chine pour construire ses EPR, parce qu'ils n'y arrivent pas. Je trouvais ça très drôle.
Voilà, bon, toujours est-il que, pourquoi pas, écoute, après tout, c'est la mondialisation, mais effectivement, derrière, on s'aperçoit qu'une ville comme ça, ou une région comme ça, ou quand même, là où d'où est parti quand même le virus, il n'y a pas de médecin, donc derrière, on construit d'immenses sites pour accueillir des malades, et en même temps derrière il n'y a pas le personnel réel. Donc en fait c'est un peu caché une réalité. On a médiatisé très fortement la création de cet hôpital. Il est là, il existe, quand même ce machin, c'est quand même assez impressionnant, mais c'est de la propagande. Et à côté de ça, évidemment, ça cache le fait que la Chine manque de personnel soignant, manque de médecins, et que c'est un vrai souci. À côté de ça, quand même, le complot quand même très très intéressant, c'est Bill Gates. Alors lui, il ramasse à chaque fois qu'il y a une histoire de complot, c'est les riches.
Ah bah ouais.
Et voilà. Et que donc il c'est un méchant.
Ah bah ça on est d'accord.
Que c'est lui qui a financé en fait le développement de ce virus quand même.
Ah carrément.
Ouais. Bah il a beaucoup de sous.
Ah ça c'est sûr. Oui.
Et que comme ça il s'est lancé avec sa fondation dans les soins, la santé.
Oui. Enfin il est plutôt dans le genre à soigner plutôt que rendre les gens malades. J'ai l'impression avec sa fondation.
Il y en a qui pensent que non, qu'en fait c'est lui qui est fautif, que c'est lui qui a en fait financé tout ça pour en fait pouvoir encore une fois vacciner les gens de force. On se demande pourquoi on y a inventé une maladie pour vacciner les gens de force, sauf s'il a pensé que Bill Gates est en lien avec la multinationale avec lequel il veut se refaire des sous. Mais comme les sous il en a déjà tellement qu'il a pas l'air de savoir quoi en foutre, puisque du coup il est obligé de monter des fondations.
Parce que dans la fondation c'est juste de l'argent qu'il donne.
Pour dépenser des sous.
Tellement qu'il en a.
Mais voilà, mais ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant qui est revenu très fréquemment. Et Bill Gates, à chaque fois, Ebola, il a été coupable aussi, hein, je te le dis. On va apprendre que le VIH, enfin, c'est Bill. Hein. Bon, le problème de toutes ces informations erronées, cette propagande, ces informations de complotistes, c'est que derrière, elles cachent toujours une réalité. Quand il y a eu Ebola, on savait qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se faire soigner et se faire suivre, ouais. Parce que justement sur place, dans certains villages, il y avait des gens qui avaient raconté n'importe quoi, et les gens pensaient qu'on allait les tuer en les faisant soigner, c'est-à-dire qu'on allait les enfermer, les enlever et puis les faire disparaître. Donc les gens ne se faisaient pas connaître quand ils étaient malades. Ça arrive quand même à cette bêtise-là, et donc devenaient très contagieux, allaient ensuite continuer à rester avec leur famille, et c'est ainsi de suite que aussi on va développer quand même aussi des épidémies. On rappelle que pour l'instant on n'a pas de pandémie, hein. Il y a quand même un peu des choses quand même qu'il faut aussi remettre.
Ouais, enfin l'échelle de la Chine, ça a l'air un peu impressionnant quand même.
Mais quand même, effectivement, hein, il y a quand même des si jamais ils n'avaient pas tout fermé, peut-être les autorités, ouais. Peut-être qu'effectivement ça aurait été quelque chose de plus important encore. Alors, et puis sinon, on sait que sur les coronavirus, il y a un certain nombre d'articles, hein, des scientifiques qui travaillent, ouais. Et donc vous savez, vous publiez comme vous êtes scientifique, et puis il y a toujours cette question de savoir, quand on publie, est-ce que c'est mis à la disposition d'autres équipes ou pas, ou est-ce qu'après c'est publié dans quelle revue, est-ce que derrière ça a été
contrôlé,
vérifié. Quand
c'est publié, c'est mis à la disposition.
Et oui, mais là, il y a des gens qui ont fait ressortir publiquement tout un tas d'articles beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu par les chercheurs et les chercheuses. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un travail qui avait décidé d'être mis un peu en avant. Simplement, il y a des gens qui sont des documentalistes, des archivistes, des gens qui travaillent dans ces questions aussi sur la science, qui ont décidé de balancer 5000 articles, vite fait, beaucoup plus vite que ce qui était prévu, en disant il y a peut-être une urgence aussi à ce que les gens partagent plus vite leurs informations.
Ah oui, tu veux dire qu'ils les ont sortis, parce que tous les ouais. chercheurs ont accès à ces articles, mais il faut payer, il faut être abonné, ça coûte très cher.
C'est
les...
toute la question.
Voilà.
Oui. C'est
ce que il y en a, donc là ils ont sorti illégalement, ils ont fait du piratage quoi. Ils ont mis des articles.
Ils le reconnaissent, c'est illégal.
Voilà. Oui.
Et l'idée c'est de favoriser la recherche, le partage, et de se dire vraiment, il faut qu'on s'y mette dès maintenant à balancer les infos, parce qu'il peut y avoir urgence. Et qu'il faut aller vite, et que c'est la vie des gens, et qu'il y a une mondialisation en plus qui fait que bah, tout ça sur un virus va très vite. Hein. Maintenant, c'est je sais pas combien de pays dans le monde qui sont touchés, et que donc bah, il faut arrêter de cacher, il faut arrêter que la science elle soit payante, il faut que ça soit au service de tous et de toutes. Et allons-y, balançons. Donc tout le monde est au courant, c'est illégal. 5000 articles sur le coronavirus, c'est assez intéressant. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on pouvait dire sur tout ça.
Donc j'ai une information qui est appelée économie et ni Dieu ni maître, un truc qui mélange les deux. On va parler d'une compagnie aérienne suisse qui s'appelle Swiss, qui a décidé de mettre fin son contrat de partenariat avec un chocolatier de luxe qui s'appelle Laderach. Alors pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Swiss, c'est une filiale de Lufthansa, donc c'est une maison mère allemande. Et en fait, le dirigeant de Swiss est pas très très fan du directeur général de Laderach, qui s'appelle Johannes Laderach, puisque c'est sa maison. Pourquoi? Et parce que c'est un militant contre l'homosexualité, contre le mariage pour tous et contre l'avortement. Et il y a eu pas mal d'articles sur en Suisse notamment du style avec comme titre le roi du chocolat combat l'avortement et les homosexuels. Alors la compagnie Swiss a dit ouais bah écoute c'est pas super comme image. Il faut dire que peut-être qu'ils sont ils ont rien contre le mariage pour tous etc. Mais c'est aussi économique en disant on va pas être associé à des homophobes parce qu'on va perdre la clientèle homosexuelle. Ça peut être ça. Quelle que soit la raison, elle est toujours bonne puisqu'ils ont décidé d'arrêter le contrat avec cet homophobe, cet anti-avortement qu'est le professeur Laderach. Alors c'est de famille, hein, parce que alors lui, il est membre du Christianity for Today, une organisation donc qui milite contre le droit à l'avortement. Vous l'avez compris, Christianity, hein, c'est des chrétiens, voilà, des antéchristes chrétiens. Son père, il s'appelle Jourg Laderach. Lui, il a été président très longtemps de l'association La Marche pour la Ville, l'association anti-avortement. Donc c'est un truc de tradition familiale d'extrême droite religieuse chrétienne. Donc voilà, bah c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir, voilà, de rejeter. Donc si vous allez en Suisse, bah n'achetez pas des chocolats qui seraient signés Laderach. Là, ça s'écrit Laderach. Voilà, je l'ai prononcé à la Suisse. Hein, je me suis entraîné un petit peu.
On va plutôt parler des mobilisations.
Ouais, non, mais en fait, moi, j'ai rien sur les mobilisations. Donc aujourd'hui, nouvelle 9e, je crois que c'est ça, journée de mobilisation. 8000 personnes à Lyon, selon la CGT, quelques milliers un peu partout, etc. À l'appel toujours des mêmes syndicats, CGT, CNT, FO, Solidaire. Mais je vais revenir sur le comptage. J'ai lu un article aujourd'hui d'Acrimed sur le comptage des manifestants. Vous savez qu'il y a deux écoles. Il y a la police, celle qui compte en fermant les yeux pour pas compter tout le monde. Il y a les manifestants qui clignent les yeux pour en voir plus, dont nous faisons partie. Et puis il y a un truc qui a été monté en 2017 qui s'appelle le Occurrence, qui est utilisé par pas mal de médias, France Intox par exemple, Le Monde, qui est soi-disant une méthode scientifique. Ils prennent une sorte de photo et ils analysent le nombre de personnes, la densité de personnes à un certain endroit du cortège, et voilà, ils comptent en fait. Ils comptent réellement, c'est censé être scientifique, censé être mieux. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de tout l'article qui est très bien fait, mais il y a des doutes sur la méthode. Il y a pas mal de doutes. Parce que, alors, il y a même des fois où le cabinet Occurrence a donné moins de manifestants que la flicaille. Ça me paraît quand même difficile quand on sait qu'en général, la flicaille, il divise au moins par deux le nombre de manifestants réels. Hein. Donc, il y a eu quelques doutes. Et en fait, la méthodologie, elle est pas claire du tout. Alors que ça pourrait être... C'est dommage, parce que finalement, scientifiquement, c'est faisable aujourd'hui, avec les outils modernes, de faire quelque chose d'à peu près précis. Alors, bien évidemment, on n'est pas capable de dire le nombre de personnes, mais on peut donner une fourchette un peu plus juste, avec des méthodes scientifiques, avec même s'il le faut, un système numérique de comptage. C'est, à mon avis, c'est jouable. Hein, c'est jouable. Sauf que là, la méthode, elle est pas claire. D'abord, il n'y a aucune transparence sur la méthode réelle et détaillée utilisée par le cabinet Occurrence. Comment ils captent les images, comment ils décomptent, ça on le sait pas. Il y a des anomalies suivant la densité de la foule. Alors bien évidemment c'est plus dur quand la foule est très dense. Mais il devrait y avoir des outils d'abord performants et puis faire quand la foule est trop dense, on fait un outil statistique de compensation en faisant des mesures réelles avec des êtres humains, etc. Enfin il y a des moyens scientifiques d'ajuster un petit peu, même si c'est un peu moins informatisé. Troisième problème, ils prennent toujours un seul point de passage. Et il y a eu une manif particulière à Paris où il y a eu tellement de violence que les gens sont passés ailleurs et ont rejoint la manif. Enfin, la manif s'est séparée en deux, en fait. Et du coup, le cabinet Occurrence, ils sont restés qu'à un endroit. Et ils ont rien dit, ils ont fait comme si ça s'était bien passé. Donc, il y a quand même pas mal de doutes sur ce cabinet et les chiffres qui sortent. Et c'est, moi je trouve au final, alors l'article est plus détaillé, montre des exemples, je vous laisserai aller voir sur le site d'Acrimed, mais moi je trouve ça vraiment dommage que voilà, personne n'ait développé un vrai outil à peu près fiable en disant bah voilà, il y a eu entre 7 et 8 000 personnes à telle manif, la méthode elle est comme ça, on donne les images avec les modalités de calcul, et comme ça tout le monde ferme sa gueule et tout le monde dit bah voilà, il y a eu tant de personnes. C'est un petit peu triste, et moi je continuerai à donner les chiffres de la CGT ou de l'organisateur quand ça, parce que j'ai décidé que quand ça nous arrangeait on avait le droit.
Alors hier il y avait donc 3 millions de personnes pour la manifestation au Flambeau à Lyon.
3 millions, non mais il faut, non, ils ont annoncé 3 000, je crois.
Ouais, m'en fous, 3 millions. Et
non, mais faut être réaliste.
C'est pas vrai. Donc je veux dire, après, débrouillez-vous pour avoir un chiffre. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir ces manifestations qui se passent en semaine, qui permettent peut-être aussi à ceux et celles qui font pas grève, de rejoindre aussi à un moment une manifestation et de participer aussi à ces mouvements. Peut-être aussi à ceux et celles qui ont été grévistes pendant des semaines et qui aujourd'hui retournent travailler et se disent mince, j'ai quand même envie de continuer cette lutte. Il y a eu encore des manifestations aujourd'hui en journée avec des grévistes. Évidemment, dans les médias, on voit tout de suite la lutte, elle faiblit.
Ouais, et puis, alors, pour
mais
le
bon,
coup,
ça, c'est...
peut-être qu'une des raisons de la surprésence du coronavirus, c'est peut-être aussi parce qu'ils en avaient marre de parler des grévistes et qu'ils se sont dit, on en a marre de, voilà, on va passer à autre chose. Parce que le fonctionnement des radios en continu, des médias en continu, comme ça, c'est qu'il faut capter l'attention. Et si le sujet reste trop longtemps, on n'arrive plus à capter l'attention. Donc il y a cette volonté comme ça de switcher, de passer d'un sujet à l'autre. Et c'est peut-être la raison de voilà que le coronavirus a pris le pas parce qu'il fallait voilà un nouveau truc pour attirer le chaland. Et qu'effectivement là les mobilisations, même si elles ont un peu diminué, elles sont en proportion, elles ont beaucoup plus diminué dans les médias que dans la mobilisation. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a une grosse mobilisation à nouveau lundi normalement. Enfin il y aura d'autres petits rendez-vous, mais il y a voilà une grosse journée lundi notamment dans les transports parisiens. Donc voilà, on va voir ce qui se passe pour la suite.
Il y a des réunions, hein, donc c'est cette fin de semaine, oui, pour savoir effectivement quelle suite à donner, comme on dit, à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi, c'est que cette réforme, elle a fait ressurgir des grognes, des colères et des revendications. Alors évidemment, il y a les avocats et les avocates qui sont en grève contre leurs conditions de travail, contre le fait... Des problèmes simples, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont mal défendus, pas parce que leur avocat ou leur avocate est pas doué, mais parce que, en fait, il y a des mauvaises conditions d'accueil, de suivi, que tout ça, c'est très très long dans des procédures, qui ne devraient pas être aussi longues, et donc, on a aujourd'hui des gens qui sont d'ailleurs jugés sans avocat, et puis tout ça est fait un peu avec le claquement de doigts, pour aller très très vite, malgré tout. C'est un peu curieux, quand même, hein. Donc, on a des avocats et des avocates qui se mobilisent pour que si toi, demain, tu as besoin d'un avocat ou d'une avocate, et ben tu puisses être défendu correctement et pas te retrouver face à une justice qui est pourrie parce qu'elle a pas assez d'argent. Ça va de des bâtiments qui sont pas corrects, au manque de personnel, enfin voilà, c'est vraiment une situation assez catastrophique. On a les médecins qui partout à l'hôpital public sont en train encore une fois de démissionner de leur charge administrative. Ouais. L'idée c'est de ne pas abandonner les patients et les patientes en continuant à soigner. Mais d'abandonner tout le reste.
Ouais. Bah, y a la mobilisation dans les écoles, puisque pas simplement à travers la grève, il y a les E3C, là, les contrôles continus, nouvelle forme, donc où il y a beaucoup de résistance. Il y a des endroits en fait où c'est aucun prof accepte de surveiller. Donc c'est la direction, parce que les traites sont très hauts, forcément, c'est plus facile. Les proviseurs adjoints qui vont surveiller les épreuves, quoi. On en est là. Il y a une vraie mobilisation contre ces E3C qui sont très mal organisés. Et voilà, et du coup, là, effectivement, la contestation, elle est très large aujourd'hui.
Et par exemple, en Guadeloupe, il faut savoir que les écoles sont fermées depuis décembre. Mmh. Très forte mobilisation des enseignants et des enseignantes, suivie par des élus. J'ai même cru comprendre qu'il y avait quelqu'un de La République En Marche qui était d'accord avec ce mouvement. C'est rappeler qu'il n'y a pas assez d'enseignants et d'enseignantes en Guadeloupe, qu'il y a un taux d'illettrisme qui est assez important, donc il faut plus de personnel, plus de moyens, et donc il y a un mouvement très très fort, hein. Je veux dire, les portes sont closes, hein, en Guadeloupe quand même, hein, il faut s'en rendre compte. Il paraît qu'il y a des situations dingues, pour être sûr que personne rentre dans l'école, ils ont barricadé les portes, ils ont mis de la colle dans des serrures, enfin c'est quand même un système qui est aujourd'hui là-bas en train d'exploser. Et les syndicats montent au créneau. Et en fait, cette histoire de réforme des retraites, elle a permis aujourd'hui, je pense aussi, à des syndicalistes de pouvoir saisir vraiment de quelque chose, des travailleurs et des travailleuses aussi à côté, et de pouvoir collectivement rentrer en lutte. Et c'est assez important. Et en Guadeloupe, c'est assez important. Ce mouvement est assez spectaculaire.
On a quand même vu des CRS devant les écoles pour faire rentrer les élèves pour qu'ils aillent passer leur.
Écoute, ça a choqué les parents. Je trouve ça plutôt chouette.
Non, heureusement que
les parents.
On va très loin quand même.
Choqué que leurs enfants aillent à l'école encadrés par des CRS.
Des flics, ouais. Ah non, mais ça va très très loin. Le gouvernement va très très loin.
Parce que moi, ce que j'avais peur un peu, c'est que les gens applaudissent et demandent en disant mon enfant, c'est quand même important qu'il aille passer.
A priori, ça s'est pas passé comme ça.
Ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que ça a été médiatisé. Là, il y a eu un choix aussi de donner plutôt une faveur aux parents outrés de voir des bleus à côté de leur gamin. Enfin, il y a quand même quelque chose qui va pas bien. Hein. Alors on nous dit oui, mais ça faisait plusieurs fois que c'était reporté, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on va venir nous chercher demain parce que on est gréviste et qu'il faut accompagner je ne sais quelle, je sais pas, moi, n'importe quelle activité finalement dans le travail et que il faut y aller de force. Hein, voilà. Donc c'est là, il y a quand même là aujourd'hui un mouvement qui est en parallèle de ce mouvement contre la réforme des retraites qui perdure. C'est-à-dire que demain, même si les mouvements contre la réforme des retraites pouvait s'épuiser, pouvait s'arrêter aussi par décision des syndicats, des grandes confédérations. Là, il y a quand même à côté plein de mouvements en grève à Marseille. Les dockers, mais pas qu'à Marseille, il y a le Nord aussi, où les dockers aussi sont en colère. Il y a les éboueurs, qui sont aussi très mobilisés par leurs conditions de travail. Donc voilà, c'est-à-dire que partout un petit peu, on a effectivement des corporations qui, à la base, n'ont pas vraiment de possibilité de se croiser, qui se mettent en lutte, en grève, en mobilisation, et tout ça est assez intéressant, parce que M. Macron, à mon avis, t'as pas fini de nous entendre.
Oui, et puis
il parce qu'il y a la culture aussi. Voilà, derrière, on l'a déjà dit la semaine dernière.
Voilà, en fait,
il réagit fortement.
Il arrive à faire monter, voilà, une haine, parce que ça s'est transformé en haine, ce que les gens ressentent pour lui, et il est en train de perdre la prochaine élection alors qu'il pensait avoir deux mandats tranquilles. C'est assez drôle de voir ce qu'il est en train de faire. Alors,
je
à moins qu'il bosse pour Marine Le Pen en sous, en loose day, c'est peut-être la possibilité
aussi.
Ouais, j'y crois
pas trop, avec ces genres d'arguments, moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt que juste, il a vraiment cru que
qu'il pouvait tout faire,
un monde libéral, être un président des riches, ce qu'il est,
sans que le reste ne bouge.
Ouais. Tranquillement, et voilà.
Je pense qu'il est très, il est très imbu de lui-même et très méprisant, et voilà. Du coup, il se rend pas compte.
Et derrière, hein, les derniers rapports expliquent bien que c'est les plus pauvres qui vont en prendre encore plein la gueule, si c'était pas déjà le cas avec les
très pauvres
précédents.
Du coup, ouais.
Et puis que c'est une classe moyenne aisée qui va le plus gagner sur les réductions d'impôts.
Bah, c'est forcément. Ils payent plus d'impôts, donc ils ont plus de réductions.
Eh ben oui.
Eh ben eux, ils vont être plus.
Sauf que les autres derrière, ils pourraient effectivement ne, comme ils payent, tu quand t'es plus pauvre ou que t'es la petite classe moyenne qui dit que tu payes pas d'impôts, c'est pas pour autant que tu vas devenir plus pauvre. Et eh ben c'est quand même ce qui est en train de se passer.
Ouais, mais il a jamais dit qu'il voulait réduire les inégalités non plus, hein, quand même.
Ah bah non.
Enfin pas que, comme
l'as
on
l'entend assez fortement dans le micro.
Ouais, c'est
les
ça.
Inégalités seront toujours là avec Monsieur Macron.
Voilà. Tu parles d'Airbus ou je parle d'énergie?
Allez, vas-y, parle d'énergie. Là.
Alors juste deux petits trucs sur l'énergie et l'environnement. Le truc sur la filière éolienne en France. Macron, encore lui, qui est président de la République, le 14 janvier dernier, s'est exprimé à Pau. Et Macron, qui est capable d'imposer des réformes pourries, et quand il y a des trucs où il faut qu'il s'impose, eh ben il botte en touche. C'est le cas sur l'éolien. Il a dit, je cite... Le consensus sur l'éolien est en train nettement de s'affaiblir dans notre pays. De plus en plus de gens ne veulent plus voir l'éolien près de chez eux. Ils considèrent que leur paysage est dégradé. Et donc, il va plus loin. Il dit qu'il faut réduire donc le développement de l'éolien. C'est très important ce qu'il dit. Ça veut dire que quoi ? Oui, j'ai de l'opposition. Alors, et donc, je m'arrête. Alors là, il y a de l'opposition sur la retraite. Ah mais non, je m'arrête pas parce que c'est idéologique. Je veux faire passer ma réforme pourrie. Alors que sauver la planète, j'en ai rien à foutre en fait. Et c'est ce qu'il dit. Quelque part. Alors effectivement, l'argument numéro un des anti-éoliens sur ça fait du bruit et c'est moche. Bizarrement, aucun de ces gens-là n'a jamais manifesté contre l'installation d'une autoroute qui fait du bruit, qui est moche et qui en plus pollue. Hein? Donc l'argumentaire il tient pas longtemps. C'est pareil, par exemple, Marjolaine, je vais citer parce que tant qu'à faire, Marjolaine Meignier de La République En Marche et Julien Aubert des Républicains, donc on est à droite toutes, qui ont présenté un rapport qui attaque les énergies renouvelables électriques, enfin sur la partie électrique, fabrication d'électricité, qui serait trop coûteuse. Eux, ils ont jamais dit que le nucléaire était trop coûteux. Combien de milliards on a investi dans le nucléaire? Des milliers de fois plus que dans le renouvelable. Donc en fait, tout est propagande. Du coup, l'industrie de l'éolien est en train de s'adapter et ils misent tout sur la mer en ce moment. D'abord, l'éolien est plus efficace en mer, parce que les vents sont plus courants, enfin, ils sont plus continus. Voilà. Donc, l'industrie et finalement l'écologie s'adaptent aussi. Et c'est quand même triste, parce qu'il y a des pays qui ont montré l'exemple. Et tout le monde cite le Danemark, tout ça, ils sont à 50% fait par des éoliens. Nous, on se bat pour avoir 6% fait par de l'éolien, c'est le chiffre actuel. Pourquoi un pays comme le Danemark y arriverait et pas la France? Ben, la différence, c'est qu'en France, on a des lobbies pro-nucléaires qui ont monté les associations anti-éoliennes. C'est de là d'où ils viennent, les assos anti-éoliennes, du lobby pro-nucléaire. Et aujourd'hui encore, c'est cette lutte-là dont les questions. Alors après, il y a eu une installation un petit peu bordélique des éoliennes, parce qu'il y a un travers qu'il faut rejeter l'intégralité du système et pas se poser des questions. Installer une éolienne dans le couloir de la chimie, à Lyon, tout en dessous de Lyon, il y a du vent tout le temps, c'est moche, c'est que des usines horribles, tiens, là, on met des éoliennes tout le long, ça pose aucun problème à personne, ça dégrade pas le paysage, de toute façon, ça sera plus joli que les usines chimiques pourries qu'on a en dessous, et voilà, le seul problème, c'est que ça se fait pas comme ça, donc effectivement, il y avait peut-être des choses à adapter, le président Macron et les gens derrière lui décident de pas s'adapter et d'abandonner une filière, de toute façon, qui a été déjà abandonnée bien avant lui, mais voilà, on en est aujourd'hui. Et un autre exemple, montrer qu'on peut faire des choses. On sait, hein, l'Espagne oblige l'installation de panneaux solaires thermiques sur toutes les constructions. Ben là, c'est la Californie qui oblige l'installation de panneaux solaires sur tous les bâtiments de moins de 3 étages, notamment les maisons en Californie, pour toutes les constructions. Alors ça rajoute un coût. En fait, c'est amorti très vite. Hein, en général, en 2-3 ans, on amortit l'installation. Panneaux solaires, c'est efficace au top pendant 20 ans, mais ça fonctionne 50 ans hein, minimum. Hein. Donc ça s'arrête pas après, juste que le rendement est un peu moins bon. Mais comme le soleil, on ne paye pas, si on perd un peu de rendement, c'est pas grave. Et donc voilà, il y a des vraies volontés, il y a des gens qui montrent l'exemple. Ben, en France, c'est pas obligatoire. Hein. On n'a pas d'obligation à isoler les façades, on a très peu d'obligations. Et du coup, aujourd'hui, la France est à la traîne. La Californie est en pointe aux États-Unis, hein, c'est historique, ça avait commencé avec Schwarzenegger, et ça continue avec le nouveau gouverneur. Voilà, il y a des choses possibles, c'est la volonté qui manque souvent. Je crois que c'est la fin, parce que je vois 20h15 à la pendule de rouge et noir de la plus rebelle des radios.
Et on va donc laisser la place à la petite cuillère, on va lancer le générique de l'émission, et on vous souhaite une très très bonne soirée.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.